Paul.
La France bouge jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Asseyag.
Une association qui permet à des chômeurs de longue durée de retrouver le chemin de l'emploi en restaurant des monuments. Elisabeth, c'est la solution et elle s'appelle Acta Vista.
Oui, restaurer des bâtiments de notre patrimoine, quelle fierté! Et il en faut de la fierté pour retrouver un emploi, pour reprendre confiance, surtout quand on est un chômeur de longue durée. Et donc l'idée d'Acta Vista, c'est d'enseigner le geste, même pour celles et ceux qui n'y connaissent rien dans la pierre ou dans le bâtiment, former ces chômeurs de longue durée dans les métiers de la maçonnerie ou de la menuiserie sur des sites prestigieux de notre pays. Une formation de 12 mois payée au SMIC. Bonjour Pâquerette de Mode Ménard.
Bonjour, merci Bonjour. De m'accueillir aujourd'hui.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes la responsable du développement d'Acta Vista. Alors, quels sont les profils qui viennent chez vous et comment il faut s'y prendre pour entrer dans le monde d'Acta Vista ?
Alors, les profils sont très variés. En fait, on accueille chaque année plus de 500 personnes sur l'ensemble de nos chantiers. Nous avons des hommes, des femmes.
Ça se passe à Marseille ?
Alors, ça se passe à Marseille, mais pas que. Maintenant aussi dans la région des Châteaux de la Loire et aussi près de Lyon. Donc des hommes, des femmes avec des parcours très variés, de 18 à 65 ans, qui viennent tous, ils ont tous en commun l'exclusion du marché de l'emploi, l'exclusion aussi des formations. Et ils viennent chez nous pour se rebâtir un avenir, apprendre à se former, à se qualifier et ensuite retrouver le chemin de l'emploi.
Alors comment ça se passe quand ils viennent se former, se qualifier, c'est quoi ? Vous avez-vous des personnes sur place au sein de votre association qui vont leur enseigner le bon geste, le futur métier ?
Oui, tout à fait. Alors les personnes qui viennent chez nous viennent pour un parcours de 12 mois maximum et quand ils rentrent, ils sont d'une part formés directement sur les chantiers par des encadrants de l'association, une formation, vous le disiez tout à l'heure, qui est une formation basée sur une pédagogie de transmission par le geste professionnel. L'idée étant vraiment d'éviter la salle de classe qui, pour beaucoup, est synonyme d'échec et de permettre aussi l'accès à cette formation à des personnes très variées qui ont parfois aussi des problématiques linguistiques ou autres qui font qu'ils ne peuvent pas prétendre à d'autres formations. Oui, effectivement, une formation comme ça par le geste. Après,
tout le monde est admis ? Il y a des critères particuliers.
Les critères particuliers. Donc, ils ont tous en commun l'exclusion. Et le critère essentiel sur lequel on les recrute, c'est la motivation. Il n'y a pas de prérequis dans le secteur du bâtiment. Ils peuvent ne pas du tout avoir tenu une truelle dans la main dans leur vie. En revanche, on leur demande la motivation de s'intégrer dans ce parcours de 12 mois et de tenir bon pour ensuite retrouver le chemin de l'emploi.
Le coach, Riyad Bolanoir.
Plusieurs questions. Déjà, pourquoi avoir choisi la restauration de monuments historiques comme sujet professionnel ?
Alors, ça fait partie effectivement d'une des singularités du projet. Lier insertion et patrimoine historique n'était pas forcément une évidence. Mm-hmm. Mais la conviction de l'association, c'est que plus les gens sont dans la difficulté, il faut avoir le courage de leur confier non pas ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes, mm-hmm. mais plutôt ce que l'on chérit le plus. Et c'est vrai que le patrimoine emblématique de nos régions est un formidable levier de fierté et de confiance.
De fierté,
ouais. On restaure personnes... la confiance en même
Exactement.
Temps.
Exactement, c'est vraiment restaurer la confiance et la fierté.
Alors, vous existez depuis 2007, hein, c'est ça ?
2002.
Ouais. Donc ça fait 17 ans que vous existez. Combien de personnes formées depuis ?
Alors, plus de 5000 personnes sont venues se former sur nos chantiers et ont pu inscrire leur histoire au sein de ces monuments historiques.
Et il y a des histoires, une qui vous a particulièrement marquée ?
Alors, on est touché par énormément
toutes
d'histoires,
les
évidemment.
Bien sûr.
C'est difficile d'en choisir une plutôt que d'autres. J'avoue que moi, personnellement, je suis assez touchée par des histoires, des parcours de réfugiés qui nous rejoignent après avoir traversé des pays pendant 10 ans pour rejoindre la France et qui, pour certains, étaient des personnes diplômées dans leur pays et qui doivent vraiment repartir à zéro, sans famille, sans aucune attache et avec tout à réapprendre. Et c'est vrai que c'est des personnes qui nous touchent particulièrement et auprès desquelles on essaye aussi de développer un accompagnement qui soit peut-être adapté, plus adapté et un peu différent des populations qu'on a habituellement.
Riyad ?
Alors, deux dernières questions. Qui finance ? Qui paye ? Première question. Et la deuxième question, est-ce que ça marche ? Sur les 5000 que vous avez accompagnés, combien se sont réinsérés dans la société normale ? Enfin, celle qui les a même exclus, mais voilà. Non, celle de l'emploi au moins. Ouais.
Alors, ces chantiers de formation et d'insertion professionnelle sont financés en grande moitié par l'État. Et ensuite par des partenaires, enfin les collectivités territoriales en général, départements, métropoles, régions. Et ce sont des, c'est un projet qui surtout est soutenu et peut se développer grâce au mécénat d'entreprise. On a de nombreuses entreprises messiennes qui nous accompagnent et qui s'engagent à nos côtés. Et grâce à elles, on peut continuer à innover.
Et combien de personnes qui ont réussi à continuer l'aventure,
sur les 500 personnes en fait, qu'on accueille chaque année sur nos chantiers, il y a 2 personnes sur 3 qui retrouvent le chemin de l'emploi à l'issue du parcours. 9 sur 10 qui se qualifient aux examens présentés, parce que c'est un point important, c'est un parcours qui est qualifiant. Et pour 80% des personnes qui sont chez nous, c'est un tout premier diplôme. Donc là aussi, en termes de fierté et de confiance, c'est un levier très important.
Donc ça marche.
On essaye toujours de s'améliorer. Mais effectivement, ça marche bien. C'est un bel objet, un beau projet valorisant pour ces personnes. Et on essaye de le développer petit à petit dans d'autres régions.
Alors, Château de la Loire, désormais, c'est ça ?
Château de la Loire, oui, sur le château de la Morinière, près de Lyon, au fort de Fézin. Et puis, on a des projets à l'étude dans la région Île-de-France.
Pour pouvoir essaimer un petit peu partout sur le territoire ?
Exactement, pour mettre à disposition cet outil auprès de d'autres territoires où le développer une action de formation et d'insertion fait sens. Et effectivement, on étudie tous ces projets les uns après les autres.
Ça s'appelle Acta Vista, 17 ans d'existence et de belles réalisations, aussi bien auprès des gens que vous aidez qu'auprès des monuments à restaurer. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va ouvrir le débat sur les alternatives aux pesticides. Comment remplacer le chimique ? Y a-t-il d'autres méthodes moins controversées ? 3921, Twitter, on attend vos remarques et vos questions. C'est la France qui bouge.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on essaie de regarder l'actualité sous un autre jour pour découvrir ou mettre en lumière des initiatives qui méritent d'avoir leur place dans le débat. Et aujourd'hui, eh bien, ce débat, c'est celui qui nous agite depuis quelques années déjà. L'emploi des pesticides, notamment les pesticides chimiques. Pas une semaine sans voir les arrêtés anti-pesticides fleurir dans les communes. Le gouvernement, lui, a de son côté proposé de fixer à 5 ou 10 mètres la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage des produits phytosanitaires chimiques, justement. Alors, on a voulu savoir si d'autres voies étaient possibles. Pour accueillir nos invités à mes côtés, le coach Riyad Boulanoir est là aujourd'hui et bien sûr Elisabeth Assayag. Bonjour Yann Fournil.
Bonjour.
Vous dirigez-vous M2I Biocontrôle et alors vous avez mis au point, du côté d'Arles, hein, dans votre usine, des parfums un petit peu spéciaux, je vais schématiser, qui reproduisent les phéromones de certains animaux. Ce sont ces parfums-là que vous utilisez en fait pour repousser les insectes et donc protéger les cultures. Racontez-moi d'abord comment est née l'idée.
Alors, avant tout, l'idée, elle est issue d'une vraie conviction, qui est que la désindustrialisation en France n'était pas une fatalité, et que si on prenait des actifs industriels avec des vrais savoir-faire et qu'on était capable de les destiner à des marchés plus nouveaux, plus innovants, on pouvait en faire une success story. Et ça, c'était vraiment la conviction des fondateurs.
Donc vous êtes allé chercher une industrie déclinante.
Exactement. On est
allé la remettre en marche.
On a commencé par l'acquisition d'un laboratoire à côté de Pau, puis d'une usine à côté de Arles. Et dans la corbeille de la mariée de ces deux actifs industriels, il y avait un savoir-faire sur une phéromone en particulier, celle du bananier, du ravageur du bananier. Et on sait que c'est un problème, hein, le chlordécone, qui était le produit chimique utilisé pour protéger
les
bananeraies dans les Antilles, a été interdit parce qu'il était extrêmement problématique. Et la seule alternative, c'est cette phéromone contre ce ravageur. Et on avait ce savoir-faire dans les équipes, donc on a décidé de le développer et puis de construire un portefeuille complet autour de cette phéromone-là. Et on en a aujourd'hui près de 70. Dans notre catalogue.
Donc se servir en clair de la nature pour faire le boulot.
Tout à fait, c'est du biomimétisme, on réplique en laboratoire ces phéromones qui sont les odeurs naturellement émises par les insectes.
Donc on fait cette copie olfactive des phéromones, c'est ça, si je schématise, pour obtenir le parfum ?
C'est exactement ça, les insectes, chaque insecte, parce que la phéromone elle est spécifique à une espèce d'insecte, chaque insecte émet une odeur qui lui sert pour communiquer avec ses congénères. Et donc on va reproduire cette odeur. Ensuite, on va être capable de la formuler pour la diffuser de manière régulière dans le champ et avoir un impact contre ces insectes qui sont des insectes nuisibles pour les cultures. Alors, soit on va capturer ces insectes, soit on va les désorienter, les repousser de manière à limiter leur impact et leurs dégâts sur les cultures.
Alors, vous nous avez amené un piège, on va dire que c'est ça, hein, on appelle
c'est
ça un piège.
C'est ça.
Si vous nous suivez sur Europe1.fr. En clair, on va venir mettre la phéromone, les phéromones à l'intérieur de cette petite pipette et on va l'instiller à l'intérieur de,
exactement,
du piège.
Exactement. Donc, la phéromone, c'est une molécule. Ensuite, on va la formuler, on va en faire un jus, qui est là un jus totalement biodégradable, fait d'eau, de cire et de phéromones, et qui va pouvoir diffuser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, ce que vous avez, c'est un piège destiné à un particulier pour protéger un buis ou un plant de tomate dans son jardin. Vous déposez la phéromone dans le haut du piège, et ainsi vous allez capturer les mâles qui vont être attirés par l'odeur de la phéromone, pensant trouver une femelle, et en fait, ils vont être capturés au fond du piège.
Oui, c'est ça, parce que les phéromones, finalement, permettent à l'insecte de penser qu'il y a possibilité de reproduction.
C'est ça.
Or, ça n'est pas le cas.
C'est exactement ça, il s'agit d'un leurre. On est sur un insecticide biologique, mais qui ne tue pas et qui n'inocule aucune molécule qui pourrait être néfaste à l'insecte. Simplement, c'est un leurre. C'est comme un miroir de sa propre odeur, si vous me passez l'expression. Et il va être leurré, piégé, et il va être capturé dans ce piège-là.
Riyad, notre coach.
Oh, je trouve ça super déjà. Hein. Je trouve que c'est génial de reproduire comme ça le fonctionnement biologique pour essayer de l'apporter. Mais alors, vous dites que ça attire juste les insectes mâles. S'il n'y a que des femelles, ça se passe comment?
Alors, quand il y a un champ ou un jardin, puisque le produit qu'on a là, il est destiné aussi aux jardiniers amateurs, on peut le trouver en jardinerie, il y a forcément les deux populations, mâles et femelles. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer, dans l'exemple précis, les mâles, et on va empêcher ces derniers de se reproduire avec
donc
les femelles.
Donc, ailleurs après.
Et voilà. Donc, les femelles ne vont pas être fécondées, donc il n'y aura pas de chenilles, et c'est les chenilles qui font les dégâts principalement.
D'accord. Alors, vous parlez des chenilles. Je crois, Elisabeth, que les chauves-souris sont aussi une alternative.
Apparemment, oui, les chauves-souris ont des vertus pour l'écosystème dans lequel elles évoluent. Elles accomplissent un rôle de régulation des insectes ravageurs, notamment sur les vignes et sur les vergers.
Et vous avez trouvé d'autres solutions qui remplacent aussi les pesticides.
Alors, vous avez par exemple MicroPep Technologies, c'est un laboratoire de recherche en sciences végétales du CNRS qui a développé des biostimulants et des herbicides naturels grâce à des molécules produites par les plantes, des molécules que l'on appelle des micropeptides. Ça peut stimuler, mais aussi ralentir la croissance des plantes, renforcer leur système immunitaire sans modifier leur ADN.
Johan Fournil, vous avez parlé de 19 brevets tout à l'heure. Je regardais sur la boîte, hein, le piège permet la lutte biologique contre la pyrale du buis, le papillon de la processionnaire du pin, le papillon de la processionnaire du chêne, le carpocaps de la pomme et des noix, la mineuse du marronnier. Bref, je pourrais continuer longtemps. Vous avez 165 salariés, 19 brevets, qu'est-ce qui empêche finalement une utilisation beaucoup plus massive?
Alors, écoutez, c'est en cours.
Vous êtes présent dans 25 pays.
On est présent aujourd'hui dans 25 pays. La société a 6 ans d'existence uniquement. Et on a commencé d'abord par développer des solutions plutôt pour les jardiniers amateurs et ensuite pour les espaces verts et les parcs et jardins. Par exemple, on protège le château de Versailles contre la pyrale du buis. Et
la L'Élysée dernière... aussi.
Aussi. La dernière étape, c'est les grandes cultures et l'agriculture. C'est un procédé, c'est les mêmes mécaniques, c'est simplement un procédé d'homologation qui est plus long. Et donc il faut plusieurs années d'essai pour réussir à valider le produit et à le commercialiser. Et c'est ce qu'on va faire dès la fin de cette année.
Oui, parce qu'il faut travailler sur chaque insecte.
Exactement. C'est un des gros points forts de la phéromone, c'est qu'elle est sélective. Elle est respectueuse de la biodiversité, puisque l'odeur n'a un impact uniquement sur le ravageur ciblé.
Quand on voit apparaître des maladies qui déciment, par exemple, je pense aux oliviers dans le sud de la France, mais aussi dans les pays comme l'Italie, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez imaginer faire demain, pouvoir intervenir sur ce type de problématique?
Alors, les phéromones, elles ont un point fort, c'est qu'elles visent les insectes, mais c'est également leur point faible, donc elles ne visent pas les maladies. En revanche, parfois, certaines maladies, ce sont des insectes qui en sont les vecteurs, et là, on peut travailler soit pour perturber, soit pour piéger les insectes vecteurs de ces maladies.
On reste ensemble et on continue à parler alternative aux pesticides chimiques aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si la plante pouvait toute seule se défendre sans faire appel à la chimie, c'est le credo du V-Boosting. A tout de suite. Europe 1. La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré aux alternatives aux pesticides. On en parle avec vos invités, Raphaël Duchemin et vous à la maison. Faites-vous attention à ce que vous mettez sur vos plantes, à ce que vous utilisez dans votre jardin. Dites-le nous sur Twitter, @ou #Europe 1. Appelez-nous également au 3921, Raphaël.
Vous avez peut-être vu que des grandes villes ont décidé de se joindre à la bataille anti-pesticides, une manière de montrer sur le papier qu'elles soutiennent la campagne finalement, mais c'est symbolique. Hein. Preuve qu'il se passe réellement quelque chose. Bonjour Yves Maton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et directeur technique d'UV Boosting. Votre start-up a mis au point une méthode qui vient stimuler les défenses naturelles des plantes grâce aux ultraviolets. L'inspiration, je crois qu'elle est venue d'Avignon, c'est ça ? Où vous avez travaillé avec deux chercheurs spécialisés dans ce qu'on appelle la biologie végétale.
Tout à fait, absolument. Donc, ce sont deux chercheurs de l'Université d'Avignon qui ont inventé un procédé, qu'ils ont breveté, qui permet de faire donc, de la stimulation de défense naturelle des plantes. Donc, si on doit faire un peu un parallèle avec la biologie humaine, c'est un petit peu le principe du vaccin. On vient exposer le corps ou bien la plante à une agression en espérant que celui-ci va mettre en place un mécanisme pour se défendre.
Sauf qu'ils ont trouvé ce procédé, mais finalement, ils ne savaient pas forcément quoi en faire. Donc, ils sont venus vous voir et c'est comme ça qu'a démarré vraiment l'aventure.
Tout à fait. Donc, exactement. Après avoir déposé ce brevet, ils se sont posé la question que beaucoup de chercheurs se posent en France, qui est la question de la valorisation. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais voir un grand groupe ? Est-ce que j'essaie de créer une entreprise ? Il se trouve qu'ils sont venus nous voir exactement avec mes associés en nous montrant ce qu'ils avaient fait, en nous demandant est-ce qu'on pensait pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là que, en sondant les différentes applications possibles et également les différentes cultures qui étaient potentiellement intéressées par cette technologie, on s'est rendu compte qu'il y avait une application possible, notamment en viticulture, et c'est la première qu'on a développée.
Ça démarre en février 2016 et l'entreprise est montée en 2017 ?
Exactement, donc on a mis à peu près un an entre la rencontre avec ces chercheurs, le fait de bien comprendre ce qu'ils avaient fait et de faire notre étude de marché. Et ensuite, on s'est laissé quelques mois pour apprendre à travailler ensemble, faire une première preuve de concept de notre application en viticulture en laboratoire. Et on a lancé l'entreprise, effectivement, début 2017, pour lancer une première saison d'expérimentation au champ. Donc, c'est ça la première étape. C'est pour pouvoir faire sortir la technologie du laboratoire, c'est aller en conditions réelles et voir effectivement ce que ça donne.
Donc, c'est ce que vous faites hein, maintenant depuis 3 ans. Être au contact des viticulteurs, voir comment réagissent les plantes quand on fait cette surexposition.
Exactement, donc c'est un peu la différence entre la théorie du laboratoire et la vie réelle. Voilà, il faut se frotter à toutes les contraintes pratiques du champ et puis également montrer une répétabilité au fur et à mesure des années. Donc maintenant, ça fait 3 saisons qu'on réalise au champ pour montrer une efficacité dans des conditions qui sont celles qu'on connaît de l'extérieur.
Ce qui se passe, c'est que les tracteurs arrivent au milieu des vignes et envoient des flashs UV, c'est ça, et voient comment la plante réagit. La plante, elle émet des antifongiques.
Alors, tout à fait. Donc, la première problématique, comme vous dites, c'était de faire sortir la technologie du laboratoire et réaliser des outils adaptés au champ. Donc, effectivement, maintenant, on a développé des accessoires pour tracteurs qui se branchent, entre guillemets, comme un pulvérisateur ou comme un outil pour tailler la vigne, de manière tout à fait standard. Et donc, le mécanisme de défense de la vigne, c'est celui de... Donc, après l'exposition aux UV, la plante va mettre en place toute une cascade métabolique qui va notamment conduire à la sécrétion de produits antifongiques naturels que la plante produit quand elle est exposée à un champignon et qui vont la rendre plus résistante. Donc quand le pathogène va se présenter lors de la saison, effectivement, celle-ci sera plus résistante.
Riyad, notre coach.
Moi, je trouve ça super. Hein. C'est du sans contact, comme on dit. Il n'y a absolument aucun contact. Par contre, j'ai quand même une question, parce qu'on leur envoie des flashs d'UV. C'est une forme de coup de soleil qui va régénérer la plante. Mais est-ce qu'on ne risque pas de l'abîmer ou de la transformer ou de la perturber, comme on le fait avec les OGM ? C'est-à-dire que finalement, en cherchant à la stimuler trop, comme on stimule trop avec les antibiotiques, après, ils deviennent plus efficaces. Est-ce que le fait de la stimuler, est-ce qu'on ne risque pas de créer une forme d'accoutumance ?
Alors c'est effectivement une des questions et c'est pour cette raison qu'on a fait des essais sur plusieurs années. Le premier élément, c'est que la dose d'UV qu'on envoie est vraiment très infime par rapport aux UV que la plante reçoit naturellement au fur et à mesure de la saison. Donc c'est vraiment un signal qu'on passe. C'est une puissance très forte pendant un temps très court mais in fine, ça change très peu par rapport à ce que la plante perçoit. Et évidemment, bah, toute la partie effet sur la qualité, c'est des choses qu'on a regardées à la fois au niveau des feuilles, mais également au niveau des fruits, s'assurer qu'on ne perturbait pas la plante outre mesure.
Je crois que vous avez trouvé autre chose hein, pour protéger, Elisabeth, les exploitations viticoles.
Oui, il existe un dispositif qui s'appelle Viti-Tunnel. C'est un dispositif que vous connaissez peut-être.
Oui, tout à fait.
Qui va permettre, sans interférer avec les processus d'exploitation viticole classique, de couvrir des rangs de vignes d'une protection transparente, imperméable à l'eau, avant le début de chaque épisode pluvieux. Ça intervient pendant le cycle végétatif de la vigne. Ça permet de réaliser ces opérations en très peu de temps, hein, juste en quelques minutes, de manière automatique. Ce sera répété autant de fois que nécessaire. Et ça permet de réaliser des traitements ponctuels, sans l'intervention du pulvérisateur, voilà, etc.
Yves Maton, avec UV Boosting, vous pensez pouvoir commercialiser l'invention en 2020? C'est prêt? Vous attendez des autorisations, vous aussi?
Alors non, nous on n'attend pas d'autorisation, on n'est pas un produit, il n'y a aucun résidu, on est une pratique culturelle, donc il n'y a pas besoin d'autorisation pour la mise sur le marché, c'est la réponse en tout cas qu'on a eue de la DGAL. Donc là, effectivement, on commercialise notre première pré-série de 5 à 10 pièces qui sera disponible pour la saison 2020.
Et vous dites, ça n'est pas plus cher qu'un pulvérisateur de pesticides classique?
Alors, ce n'est pas plus cher qu'un pulvérisateur. La seule différence, c'est qu'on permet de réduire le besoin en pesticides de 50 à 75%. Donc, on a encore besoin d'avoir un pulvérisateur. L'élément de rentabilité pour les agriculteurs vient du fait qu'on économise des achats de matières phytosanitaires qui sont relativement onéreuses avec un investissement. Donc, l'idée, c'est que ça puisse être rentabilisé en 4 à 7 ans, suivant la surface de la parcelle.
On reste ensemble et on continue à regarder quelles sont les alternatives aux pesticides chimiques.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas utiliser des produits géotextiles pour remplacer ces fameux pesticides? A tout de suite sur Europe 1.
Dans La France bouge cet après-midi, on parle des alternatives aux pesticides chimiques. Vous avez des questions pour nos invités, appelez-nous 3921, c'est 50 centimes la minute. Ou alors écrivez-nous sur Twitter, @EuropeRaphaël.
Et vous allez voir qu'il suffit souvent de regarder ce que faisaient nos anciens pour réinventer des solutions et les adapter à la société d'aujourd'hui. Bonjour Frédéric Rohr.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Géochanvre. Et alors vous avez créé un procédé qui vient protéger les cultures grâce à une toile de paillage. Elle est avec nous, cette toile, si vous nous suivez sur europe1.fr. Le paillage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez connu, finalement, chez les agriculteurs. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de réinventer le procédé?
Ouais, je vais faire un peu comme mes collègues, c'est essayer de voir un peu le côté biomimétisme qu'on peut avoir. Et c'est vrai que d'utiliser du chanvre, qui a plusieurs milliers d'années, et de le transformer en espèce de papyrus, voilà. Donc l'histoire a fait que j'ai pu poser 14 brevets, là aussi, sur tout type de fibres végétales pour faire des toiles de paillage. C'est quelque chose qui est 100% nature et qui correspond à cette logique zéro phyto.
Alors cette toile, on va expliquer hein, à nos auditeurs ce que c'est. C'est de la paille, on la met à plat, on va venir avec de l'eau par-dessus et par-dessous en forte pression et ça va créer quelque chose d'amalgamé finalement. Et ensuite, vous allez faire sécher.
C'est ça, c'est ni... Il faut juste 5 millions d'euros de machine, d'accord?
Oui.
Pour avoir de l'eau sous pression.
J'ai schématisé.
Voilà.
Hein.
Mais c'est exactement ça, c'est que de l'eau sous pression qui va bombarder les fibres dans un sens et dans l'autre et refaire ce qu'on appelle du velcro.
Elles vont se colmater.
Et ce qu'on appelle aussi comme le chardon carder, et qui en fait servait à carder la laine, carder tout ce qui était fibre naturelle d'époque, par des petits crochets et qui ont inventé le velcro, tout simplement.
Donc nous, on remet. Donc cette paille, elle va venir, on va pouvoir tapisser entre les rangées de plants et on va remplacer ce qu'on voit souvent dans les champs, hein, les plastiques.
Voilà, c'est ça. C'est une vraie toile de paillage qui est 100% naturelle, biodégradable. C'est du zéro pesticide, zéro produit dedans, zéro colle, zéro liant dedans. C'est uniquement de l'eau et de la paille. Et qui, en fait, quand on met ça sur le rang, ben, ça évite toutes les mauvaises herbes sur le maraîchage, la viticulture et tous les espaces verts. Donc, toutes les plastiques que vous voyez en ville, il faudra un jour se poser la question.
Oui, ça veut dire qu'on n'a pas de mauvaises herbes qui poussent dans nos cultures, parce que c'est protégé. Et puis surtout, c'est biodégradable. Donc, une fois qu'on l'a utilisé, ça, elle va revenir dans la
sol.
Terre.
Ouais. Ça nourrit le sol. Et nous, on est les copains des vers des terres. Ça veut dire qu'on on stimule les sols. Et on a fait pas mal d'études avec l'UMR Agroécologie l'INRA de Dijon, qui a montré qu'on était vraiment des biostimulants naturels. Et on favorisait énormément la vie du sol.
Comment ça vous est venu, cette idée? Vous étiez déjà en train de travailler sur les géotextiles.
Ben, disons que j'ai une autre société dans le Sud, qui fait de l'écologie, qui travaille avec de l'eau. Il fait du génie écologique depuis plus de 20 ans. En parallèle, j'ai pu monter un maraîchage bio parce que j'avais une quinzaine d'hectares où on a fourni du légume bio pour 1000 repas par jour à peu près pour des cantines scolaires. C'était il y a plus de 10 ans. Et je me suis battu dans le premier métier contre les importations de coco, de jute et de produits importés. La traçabilité n'est pas tout à fait claire, tissée à la main. Et sur le côté maraîchage, j'ai vu que les plastiques étaient indispensables en maraîchage bio. Et la traçabilité de ces micro-particules de plastique et des bioplastiques, c'est un futur problème, quoi. Donc après, j'ai cherché ce qu'il y avait de plus naturel et j'ai trouvé l'eau sous pression comme la technologie la plus en pointe. Et avec du chanvre, donc j'ai créé l'usine entre une vieille cimenterie où il y avait beaucoup d'eau, et donc là aussi, vieux patrimoine industriel, et une logique de chanvre qui a, il y a plus de 15 000 hectares de chanvre en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a de la ressource, la graine est utilisée.
On a tout ce qu'il faut.
Voilà, la graine est utilisée pour l'alimentation, pour pas mal de choses. Et la fibre, et notamment la fibre de lait oléagineux, est un déchet pour l'agriculteur. Donc quand on valorise ces pailles, quand on valorise toutes les autres pailles, on se rend compte qu'on peut créer de la richesse, y compris sur des zones de captage d'eau. Pour être zéro phyto en amont, quoi.
Que dit notre coach, Riyad?
Déjà, bravo, félicitations, c'est super, parce que là on est dans du 100% naturel. Mais je voulais, je me demandais moi si c'est par rapport au paillage traditionnel. Quelle différence de prix il y a entre votre technologie et le traditionnel?
Le problème qu'il y a, c'est que le coût des plastiques n'intègre jamais le recyclage.
D'accord.
Ils ressortent maintenant des bioplastiques, etc., qui disparaissent soi-disant dans la nature, mais quid des micro-particules générées. On est plus cher que les plastiques. Mais c'est une histoire de massification. Ce n'est pas une histoire de prix. C'est qu'on n'est plus en comparaison d'un thym mauvaise herbe, puisqu'on est biostimulant. Et on double des rendements de tomates, on double des rendements. Donc, il faut intégrer dans des business cases.
Le plastique, etc.
Exactement. Quoi. Et le ramassage et le recyclage. Ouais. Quand les bio me disent « je mets à la déchetterie et je suis écolo », j'ai quand même un problème de compréhension de filière, quoi. Et quand ils broient tout ça dans les sols, sans se dire que sur 3-4 cultures, il va y avoir tellement de micro-particules de plastique, ça ne fonctionnera pas, quoi.
Oui, ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Quand on dit bio, effectivement, il faut penser à la totalité de ce qu'on fait.
Et la traçabilité de la filière. Essayer de comprendre et de voir jusqu'où on comprend. Et si on ne comprend pas, il faut se demander pourquoi on ne comprend pas une filière, quoi.
Vous produisez 10 000 mètres par jour.
Ouais, 10 000 mètres carrés par jour, ça veut dire qu'on a un vrai outil industriel.
Je ne me rends pas compte, ça veut dire qu'on couvre...
Ça fait un hectare par jour. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire avec notre usine, allez, de 2 000 hectares par an, ça représente 0,01% du marché des plastiques agricoles à maraîchage bio.
Vous dites, aujourd'hui, on peut aider les maraîchers, les horticulteurs aussi.
Et la viticulture, et les espaces verts qui nous suivent pas mal. Et puis on est aussi chez tous les particuliers pour leur potager. Qui utilisent du chanvre lin de chez nous. Et donc, ça veut dire qu'on s'appuie sur du réseau de distribution, mais il manque vraiment l'effet d'échelle pour diminuer le prix.
Elisabeth, on parlait justement des pesticides et de ce qui reste finalement dans l'alimentation. Je crois que vous avez trouvé une étude faite par des Américains qui indique justement comment on va retirer efficacement les pesticides de nos fruits.
Oui, il s'agit de chercheurs de l'université de Massachusetts aux États-Unis qui ont voulu tester 3 techniques. C'est très sérieux, hein, je vois Riyad sourire. Avec l'eau du robinet, avec une solution composée d'1% de bicarbonate de soude et de 99% d'eau, et une solution à base d'eau de Javel.
Ouais.
Le grand gagnant, eh bien, c'est le
bicarbonate.
Bicarbonate, exactement. Le bicarbonate, ainsi que éplucher chaque fruit. L'association des deux, vous avez un fruit avec zéro pesticide.
On reste ensemble et on continue à parler alternative aux pesticides aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h36.
Europe 1.
Et on vous attend, c'est mieux avec le micro ouvert, 3921, Twitter, La France bouge sur Europe 1. La France bouge continue jusqu'à 14h. Le dossier du jour, Raphaël, les alternatives aux pesticides chimiques. Nous sommes avec Johan Fournil, dirigeant de M2i Biocontrôle, qui reproduit en laboratoire par biomimétisme les phéromones des ravageurs. Yves Maton, cofondateur et directeur technique d'UV Boosting, une start-up qui propose une méthode de stimulation des défenses naturelles des plantes. Et Frédéric Roure, dirigeant de Géochanvre F, qui a mis au point un process de toile de paillage destiné maraîchage notamment et à l'horticulture et pourquoi pas à d'autres cultures évidemment. Notre coach c'est Riyad Boulanoir et à mes côtés comme chaque jour elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Je vous propose tout de suite d'aller voir dans la rue au micro de Laetitia Farine ce qu'on pense justement des pesticides.
Bonjour, je m'appelle Gérard, j'ai 70 ans. Moi, j'ai été élevé à la campagne et on n'avait pas besoin de ça pour faire pousser les pommes de terre, les haricots verts, les oignons et tout le tralala. On mettait un peu de purin, du fumier, on bêchait, et ça poussait, c'était écologique, ça coûtait pas cher. Que maintenant, on met des pesticides, c'est dangereux et ça coûte beaucoup plus cher.
Le bon sens paysan, Frédéric Roux.
Bien sûr, mais c'est l'intérêt d'utiliser du paillage, simple, que de la fibre. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de truc qui va vous tenir 5 ans ou 10 ans.
On a oublié tout ça, il faut revenir à l'essentiel, revenir à la nature. C'est ce que vous montrez finalement tous les trois aujourd'hui.
Bah, c'est certain que depuis 50 ans, les rendements agricoles ont été multipliés par deux, mais ça a été au détriment de la qualité et l'utilisation de beaucoup de matières dangereuses dans les produits phytosanitaires. Simplement, aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une situation où ils ont un impératif économique. Il faut donc leur offrir des solutions alternatives pour permettre une transition écologique, entre guillemets, un peu à sens inverse.
À marche forcée parfois, hein, Elisabeth, on voit qu'il y a 5 grandes villes qui ont décidé d'interdire les pesticides sur leur territoire.
Oui, il y a Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille et Nantes qui l'ont annoncé il y a quelques jours, d'interdire les pesticides au nom du principe de précaution. Bon, il faut dire que c'est une action symbolique, hein, puisque la loi interdit déjà depuis 2017 l'utilisation des produits chimiques par les collectivités pour entretenir les espaces verts et la voirie. Et depuis janvier, c'est valable aussi pour les particuliers et les jardins amateurs. Jusqu'au 1er octobre, il va y avoir une consultation publique parce que ce projet de décret a été jugé largement insuffisant. Hein. Le projet de décret, c'est le gouvernement qui a proposé 5 et 10 mètres comme distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage des pesticides. Donc un projet jugé insuffisant par les associations de protection de l'environnement.
Vous en pensez quoi de ce débat? Il faut justement que des solutions comme les vôtres soient intégrées dans ce débat pour qu'on puisse justement les faire connaître au plus grand nombre.
Oui, pour parler des phéromones en particulier, ça fait partie de l'arsenal à disposition pour les gestionnaires d'espaces verts, pour faire justement favoriser cette transition et remplacer les pesticides qui sont interdits depuis 2017 et la promulgation de la loi Labbé. Donc oui, on est des acteurs de cette transition et notre travail consiste à essayer de proposer des produits, et c'est ce qu'on essaie de faire chez M2i, le plus économique possible, aussi efficace et très facile à mettre en œuvre pour que la transition soit facile et que les décideurs, les acteurs de la transition écologique ou de la gestion des espaces verts puissent s'approprier des technologies vertes et respectueuses de la biodiversité et de l'environnement.
Je vous propose qu'on retourne dans la rue, voir comment on réagit.
Bonjour, je m'appelle Claude et j'ai 70 ans. J'évite les pesticides, peut-être pas au maximum, mais en faisant attention, en essayant de prendre du bio ou des produits qui se lavent bien. Pour mes petits-enfants, par exemple, je fais attention. Alors, c'est pas plus difficile, mais c'est plus cher.
C'est pas plus difficile, mais c'est plus cher. J'ai les bons gestes, je lave. On revient au bon sens, Yves Maton.
C'est sûr, c'est une bonne chose que ça vienne du consommateur. Je pense que le changement, il doit venir de là. Et d'ailleurs, on voit bien, finalement, les décrets que le gouvernement envisage viennent aussi d'une volonté de la part du peuple. Mais in fine, c'est quand même très difficile d'avoir une traçabilité sur ce qu'il y a vraiment dans les produits. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'il n'y a pas que les consommateurs qui sont impactés. Il y a aussi la biodiversité, il y a aussi les agriculteurs eux-mêmes. Donc, toutes les solutions alternatives comme celles qui sont présentes sur ce plateau, c'est aussi des solutions plus globales, pas simplement pour l'idée de dire je vais bien laver mes fruits et donc finalement on peut mettre autant de pesticides qu'on veut en amont, c'est clairement pas une bonne solution. Ça a beaucoup d'autres impacts qu'on voit se répercuter au fur et à mesure des années.
On retourne dans la rue.
Bonjour, je m'appelle Patrice et j'ai 43 ans. Je trouve ça compliqué en effet, c'est pas souvent bien indiqué et même si ça l'est, on n'a pas forcément l'information et puis surtout c'est dommage que ce soit au consommateur de faire l'effort de faire attention à la qualité des produits vendus. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture. J'espère qu'il y a des personnes, des professionnels qualifiés qui s'occupent de ça à ma place.
Eh bien voilà, ils sont là, les professionnels qualifiés qui s'occupent à la place de Patrice. Frédéric Roux, on en revient toujours à la même chose. Il suffit d'observer la nature, de regarder ce qu'elle nous met à disposition pour finalement avoir les bons gestes et trouver les bonnes solutions.
Oui, c'est vrai que le bon sens des auditeurs le voit. C'est extrêmement simple. Si ce n'est que pour massifier un nouveau produit, quel qu'il soit, y compris du géochanvre, il faut des moyens. Et des outils industriels de plusieurs millions d'euros, si l'État n'accompagne pas la transition des parcours agroécologiques sur la partie amont, sur les zones de captage, pour préserver la ressource en eau, pour intégrer toute une filière complète, on n'a pas les moyens des lobbies des plastiques et des glyphosates. Quoi.
Donc il faut qu'on vous aide, c'est ça, pour pouvoir faire exister véritablement ces solutions et qu'elles deviennent pérennes.
Ouais, oui. Donc, petite start-up, nous, on cherche du financement. Donc on n'est que 12 dans la méga société.
Vous êtes combien, Yves Maton, vous,
nous,
chez vous?
Nous, on est 16 et je voudrais juste rajouter sur le fait que le problème des solutions actuelles, c'est qu'elles sont extrêmement efficaces, toutes les solutions chimiques, assez peu chères. Mais on a oublié un élément important, c'est qu'elles sont très dangereuses. Et donc, oui, aller vers des solutions qui sont peut-être un petit peu plus coûteuses ou qui nécessitent de l'investissement pour ensuite devenir rentable, bah, c'est quelque chose qu'il faut faire pour justement ne pas prendre de risques avec la santé.
Vous êtes d'accord, Johan?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi avoir un message plutôt positif. C'est que nous, on le vit chez M2I, mais je pense que vous le vivez aussi dans les différentes entreprises qui sont vécues, les différents témoignages qu'on a eus là. C'est que tout le monde en a envie. C'est-à-dire que les consommateurs en ont envie. On voit que la consommation du bio, c'est 20% de plus tous les ans. Les pouvoirs publics en ont envie. On a parlé de la loi Labbé tout à l'heure. Nous, on est là pour proposer des solutions techniquement et économiquement viables. Et les agriculteurs également en ont envie. Et nous, on a beaucoup d'échanges avec eux. Et on voit qu'ils sont aussi demandeurs pour leur propre santé et puis pour la qualité des produits qu'ils proposent. Et je pense qu'il faut être raisonnablement optimiste parce qu'il y a plein de bonnes volontés qui sont en train de s'imbriquer en ce moment et de faire que... Je pense que ces solutions-là seront dominantes bientôt.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas et qu'on nous souhaite également parce que c'est de notre santé qu'on est en train de parler aussi. Merci messieurs d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
On reste ensemble et on va découvrir dans quelques minutes l'histoire de la Maison Lafargue. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est la Maison Lafargue. Bonjour Sophie Milas Lafargue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de cette maison qui appartient à votre famille depuis 4 générations maintenant. C'est votre arrière-grand-père, je crois, en 1890, hein, qui a ouvert un premier atelier à Saint-Jean-de-Luz. Il est compagnon du devoir et il travaille le cuir, d'abord pour les agriculteurs.
Oui, tout à fait. Donc c'est mon arrière-grand-père, notre arrière-grand-père, puisque nous sommes deux à diriger l'entreprise.
Avec votre sœur.
Exactement, ma sœur Stéphanie. Donc c'est notre arrière-grand-père qui a fondé l'entreprise en 1890. Et au début, il faisait essentiellement des selles, des harnais, des équipements pour chevaux et pour les bœufs également. Ce qui était les colliers de bœufs, les têtières, etc.
Et très vite, les commandes vont se différencier ou c'est simplement quand son fils vient à la rescousse qu'il a une idée intéressante, justement en s'inspirant des fameux colliers de bœufs?
Voilà, c'est ça. C'est en s'inspirant des fameux colliers de bœufs qu'il a eu l'idée assez révolutionnaire à l'époque de faire des ceintures et des accessoires d'abord masculins puis ensuite féminins. Et les premières ceintures ont été créées vraiment avec l'idée de reproduire les colliers de bœufs et le cloutage qui était vraiment très beau à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, et qui est devenu...
C'est devenu la marque de fabrique de la Maison Lafargue.
Exactement.
On en a quelques exemples ici sur Europe1.fr, hein, si vous nous suivez en vidéo. Ces clous, effectivement, qui viennent sertir les ceintures ou les sacs, ils s'inspirent de ces colliers. Et comment ça se passe? Ça plaît tout de suite?
Ah oui, ça a tout de suite beaucoup plu. C'était un pari parce que c'était très osé. On avait jamais vu ça avant. Et c'est tombé aussi à une période où Biarritz devenait assez à la mode. La Côte Basque commençait à devenir un lieu de villégiature assez important. Donc à la fois, ces produits ont séduit la clientèle locale qui connaissait déjà la maison, puis toute la clientèle touristique qui commençait à venir de plus en plus à Biarritz, puis Saint-Jean-de-Luz.
Arrive la guerre, les deux frères, hein, Jean-Baptiste et Léo, vont décéder pendant la guerre. Et du coup, c'est Suzanne, la femme de Jean-Baptiste, c'est ça qui reprend l'entreprise à son compte et qui va travailler avec ses fils.
Exactement. Elle était mère de famille, donc veuve avec 5 fils, et c'est elle qui a porté l'entreprise un bon moment, aidée de ses fils aînés. Puis, il a fallu la reconstruire après la guerre et la développer.
Avec toujours la volonté d'ancrer la maison dans le territoire, dans le Pays Basque.
Oui, absolument.
C'est quoi la marque de fabrique aujourd'hui de la Maison Lafargue?
C'est vraiment des produits fabriqués à la main, en France, et non seulement en France, mais au Pays Basque, puisque l'atelier d'origine, qui était donc rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz,
est toujours là.
Voilà, il existe toujours.
À l'époque, à un moment donné, on travaillait même à l'extérieur. Hein.
Oui, exactement.
Il y avait un atelier femme, un atelier homme.
Exactement. Et on les a conservés aujourd'hui, ces ateliers, à Saint-Jean-de-Luz et on en a ouvert un second à Asquin, donc un joli village basque qui est à peu près à 10 minutes de Saint-Jean-de-Luz. Et vraiment, l'intégralité de nos articles sont fabriqués au Pays Basque. Donc, on a une image très artisanale, mais également très basque.
Ce qui vous a aussi permis à Asquin d'embaucher 17 personnes.
Oui, la première année, suite à l'ouverture de notre atelier, effectivement, on a embauché 17 personnes. Et on a pu à la fois recruter, mais également, ben, le but, c'était de produire davantage pour pouvoir répondre à la demande, avoir davantage de stock en boutique et ouvrir un point de vente internet.
Que dit notre coach de l'histoire de la Maison Lafargue, qui est entreprise du patrimoine vivant?
Ah, moi, je dis que c'est une super belle histoire. C'est une histoire qui est remplie de courage et d'humanité. Donc, j'aime beaucoup. Et par contre, j'ai une question que je me pose, c'est comment on fait pour résister dans le milieu de la maroquinerie depuis 4 générations, quand on voit le nombre de produits concurrents qui existent? Comment on arrive à résister? C'est quoi votre secret de fabrique?
Je pense qu'il y a deux... les principales raisons, je pense, c'est à la fois d'avoir un produit de qualité, avec du coup une clientèle fidèle qui revient et qui, on espère, est satisfaite. Voilà,
sûrement, sinon elle ne reviendra pas.
Voilà, la qualité du produit, je pense, est essentielle. Et avoir aussi un produit qui a une âme, qui a un vrai ADN et qui n'est pas le même produit que celui qu'on trouve partout. Je pense que c'est un peu les deux choses qui font notre force. Et après, le fait aussi d'être entreprise du patrimoine vivant, nos clients savent qu'on fabrique en France, que la fabrication est artisanale du début à la fin. C'est vraiment la même personne, le même artisan qui va créer son produit du début à la fin.
Qui va découper, qui va choisir la peau aussi.
Alors, il y a une personne, le chef d'atelier, qui choisit la peau, qui la découpe et qui prépare pour chacun des maroquiniers une petite bannette avec toutes les pièces qu'il faudra ensuite assembler. Tous les clous vont être posés un à un à la main. Et le fait que tout soit fait de manière artisanale dans nos ateliers, je pense, fait aussi partie de... Enfin, c'est aussi un plus qui plaît aussi à notre clientèle et qui nous permet de nous démarquer.
Vous avez repris avec votre sœur il y a 5 ans. C'est quoi la suite, justement? Comment est-ce que vous allez vous inscrire dans le temps pour la 5e génération?
On n'en est pas encore là. Pour le moment, on espère que la 4e pourra durer le plus longtemps possible. Mais vraiment, notre idée, c'est de continuer à faire vivre ce qui fait vivre aujourd'hui la Maison Lafargue, à conserver vraiment l'artisanat et l'image de la maison, l'image de nos produits, tout en gardant vraiment cette idée de mode aussi, de création, de modernité. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est faire perdurer les savoir-faire et s'inscrire en permanence entre tradition et modernité, en conservant des produits qui existent parfois depuis 50 ans et qui plaisent toujours aux mêmes clients et à de nouveaux clients 50 ans après, et en même temps créer de nouveaux modèles qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire et qui ont une vraie cohérence.
C'est ce que vous faites bien, et je précise que vous avez récemment reçu les honneurs du G7, hein, où les bloc-notes des chefs d'État qu'ils avaient à leur disposition étaient fabriqués par votre maison. La Maison Lafargue, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous parler de son histoire aujourd'hui. Merci à Riyad, qui était notre coach.
Merci à
Céline,
vous.
Céline, Elisabeth, on se dit à demain. Midi.
À demain, Raphaël.
À demain, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Restez là, Christophe Ondelat arrive.